accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Many people on a street. Democracy. Many people on a street.
Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Accent d'Europe avec aujourd'hui une brèche dans le consensus social en Autriche. Depuis le 1er septembre, un employeur autrichien peut tout à fait demander à ses employés d'effectuer jusqu'à 12 heures de travail par jour de manière ponctuelle. Jusqu'à présent, cette durée maximale du travail était limitée à 10 heures. C'est le résultat d'une nouvelle loi que le gouvernement conservateur de Sébastien Kurz a fait passer avec l'extrême droite du FPE, déclenchant par là même le plus grand mouvement de contestation sociale depuis son élection. Le reportage à Vienne de Céline Béal.
À l'aéroport de Vienne, Christina Prattel vient de finir sa journée. 8 heures de travail. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. En tant qu'hôtesse de l'air, elle doit parfois faire 13, 14, 15 heures selon la durée du vol. C'est une exception légale. Christina Prattel, qui est aussi fonctionnaire du syndicat VIDA, critique la décision du gouvernement d'allonger maintenant, pour tous, la durée légale maximale du travail de 10 à 12 heures. Christina dit supporter ses longues journées car c'est par vocation qu'elle a choisi ce métier et que toute sa vie privée est organisée pour supporter de tels horaires.
Il y a des gens qui ont besoin d'un rythme régulier. Ils ne peuvent pas se permettre d'être ailleurs 12 heures par jour parce qu'ils ont une famille, des enfants, peut-être même des parents dont ils doivent s'occuper. Avec une journée de 12 heures, on ne peut pas s'organiser.
Les patrons autrichiens peuvent dorénavant demander ponctuellement à leurs employés de travailler jusqu'à 12 heures d'affilée et jusqu'à 60 heures par semaine. Ce sont bien des durées maximales. La durée normale reste à 8 heures par jour et 38 heures et demie par semaine. La différence entre normale et maximale, c'est qu'au-delà de ces 8 heures par jour, les travailleurs sont payés au tarif plus élevé des heures supplémentaires. Et la loi stipule que les employés ont le droit de refuser la 11e ou la 12e heure supplémentaire. Mais ce volontariat, en théorie, ne rassure pas la représentante des salariés.
Cette journée de 12 heures est qualifiée de volontaire. Mais on sait qu'on ne peut pas la refuser par peur de perdre son travail. Inévitablement, les personnes auront moins de vie sociale en dehors du travail. À court ou à long terme, cela va très sûrement avoir des conséquences sur l'état mental, sur la vie privée, comme sur la motivation au travail. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Fin juin, 90 000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre cette mesure, la plus grande manifestation à Vienne depuis des années. Le gouvernement a réagi en assurant que la flexibilisation des horaires de travail était avantageuse pour tous. Franz Maholtz est directeur du département du droit du travail à l'Université d'économie de Vienne. Il rappelle que les travailleurs et travailleuses d'Autriche sont protégés par une directive européenne qui empêche les employeurs d'abuser des 12 heures de travail.
Alors cette flexibilisation qui donne une autorité importante à l'employeur est quand même limitée. Et de l'autre côté, les employés peuvent, sans conséquences négatives, même sans raison, refuser de travailler ces horaires extraordinaires.
Cet avocat reconnaît toutefois que les salariés seront probablement parfois obligés de travailler plus qu'ils le souhaitent. Et il rejoint les contestataires sur un second point. Il regrette que le gouvernement ait décidé cet allongement sans discussion préalable avec les représentants des salariés, et ce contre la tradition autrichienne de codécision. Peut-être parce que par le passé, le système de consensus entre partenaires sociaux n'a pas bien su prendre en compte la modernisation du monde du travail.
C'est le travail féminin, la compatibilité de la vie familiale avec la vie de travail, la protection des personnes âgées. C'était toujours un thème, mais il n'y avait pas de résultats.
Reste que cette manière de faire heurte certains, et pas seulement du côté syndical. Le politologue Martin Doletzal de l'Institut viennois des hautes études note que le style du gouvernement froisse même dans les rangs des deux partis en coalition, le VP conservateur et le FPE d'extrême droite.
Dans les deux parties, certains s'inquiètent que cette politique se traduise par un recul des intérêts des employés. Cela peut s'avérer problématique, surtout pour le FPE, parce que son électorat est constitué d'ouvriers et de salariés.
Pour une formation qui a la prétention d'être le nouveau parti des travailleurs, la contestation, si elle continue, peut provoquer une perte de crédibilité auprès de cet électorat. Les syndicats et le Parti social-démocrate envisagent des pétitions ou de bloquer les prochaines négociations salariales mi-septembre. Mais alors qu'aucun rendez-vous électoral n'est en vue, pas sûr que le gouvernement se montre réceptif à la contestation sociale.
La musique lounge que l'on peut désormais entendre en terrasse des bars et des hôtels du monde entier. À Prague, le nouveau quartier Karlin sur les berges de la Vltava ne fait pas exception à la règle. Un quartier sauvé des eaux et désormais bien gentrifié, Alexis Rosenzweig.
Des cafés, des bars, des salons de biocosmétiques, des parcs, des bureaux, des magasins de design et même des boutiques de cigarettes électroniques. L'ambiance a bien changé à Karlin. Cet ancien quartier ouvrier que de nombreux Pragois ont longtemps évité parce qu'ils le considéraient comme un coupe-gorge près de la gare routière. Si la crue de 2002 a meurtri Karlin, elle a aussi permis au quartier de se renouveler, et ce, de manière plutôt raisonnée. C'est un développeur urbain d'origine belge qui a perçu le premier le potentiel de Karlin et de ses rues quadrillées à l'américaine. Il est vrai que certains aspects du quartier peuvent faire penser à Brooklyn, et à ses anciennes usines réaménagées en bordure de l'East River. Comme là-bas, on entend le train passer sur les lignes surélevées de Karlin. Mais Prague garde aussi ses spécificités de la Mitteleuropa, avec d'anciens immeubles à l'architecture remarquable et des bâtisses hors du commun, comme les Invalides, ou encore une ancienne gigantesque caserne datant du 19e siècle, où il est désormais possible de jouer au beach volley ou de voir des films sur grand écran en été, et de faire du patin à glace en hiver. Le revers de la médaille pour Karlin, comme pour d'autres quartiers du centre de Prague, c'est l'augmentation constante des prix de l'immobilier, avec un problème de logement pour une partie de la population qui devient un réel enjeu pour la capitale tchèque.
C'est l'un des effets enivrants du réchauffement climatique. La culture des vignes remonte doucement mais sûrement vers le nord de l'Europe, à tel point que depuis quelques années, le Royaume-Uni renoue avec son passé médiéval de producteur de vin. L'an dernier, la production a fait un bond de 64% par rapport à 2016, 3 millions de bouteilles mises sur le marché. En majorité du vin pétillant, mais les vins plus classiques commencent aussi à prendre de l'essor. C'est le cas notamment dans les régions du Suffolk, du Sud et du Norfolk à l'est de l'Angleterre, où le climat leur est favorable. Et c'est dans la vallée de Waveney qu'un jeune couple, Anna et Ben Witchell, ont décidé de créer son propre domaine viticole, Flint Vineyard, en 2015. Reportage de Marie Billon.
C'est par la salle des dégustations que nous commençons la découverte de Flint Vineyard. Car comme tout vin anglais, il doit faire ses preuves dans un monde d'œnologues encore relativement sceptiques. Anna Witchell est une ancienne professionnelle du tourisme. Elle a tout quitté avec son époux, Ben, ex-informaticien, pour créer leur propre vignoble il y a 3 ans.
Nous nous concentrons ici sur des vins de qualité non pétillants, même si nous produisons quand même quelques vins pétillants. Nous avons le Bacchus, un vin plein d'arômes et rafraîchissant, ressemblant au Sauvignon blanc, du Pinot noir et du Pinot blanc.
Anna et Ben ont leur propre salle de pressage, ce qui est rare pour un vignoble de cette taille, un peu plus de 6 hectares et 26 000 vignes plantées.
Là, vous voyez plusieurs cuves en acier. Elles viennent de Slovénie et sont faites sur mesure pour les vins que nous produisons. Nous avons aussi une presse dernier cri. Il n'y en a que 2 autres comme ça au Royaume-Uni. Elle est spéciale parce qu'elle travaille avec du nitrogène au lieu de l'oxygène. Comme nous voulons des vins très riches en arômes, c'est important que l'oxygène ne soit pas en contact avec du liquide pendant la presse.
In this laboratory, it allows us to analyze all the wine as it goes through fermentation.
Anna montre le petit laboratoire dans lequel son époux s'enferme régulièrement pour étudier les vins de manière très scientifique avant de finalement se diriger vers les vignes. Le domaine est parfait pour un vignoble, dit-elle, en pente, exposé plein sud. Les premières vignes ont été plantées en 2016, donc la première récolte sera pour cette année. Depuis 2 ans, Anna et Ben achètent leurs fruits à d'autres viticulteurs de la région. Flint Vineyard a donc déjà commencé à vendre son vin et à se faire un nom, explique-t-elle, en descendant un petit chemin bordé de jeunes pousses.
L'an dernier, nous avons produit 8000 bouteilles. Toutes ont été vendues en 4 mois, donc on s'est retrouvés sans rien pendant quelques temps. Cette année, on a fait 15 000 bouteilles et on table sur 25 000 l'an prochain. On essaie de s'adapter à la demande qui est de plus en plus grande pour les vins anglais.
Arrivée dans le plus grand des champs qui composent le vignoble, Anna cherche son mari. Nous arrivons du sommet de la colline et les vignes sont si hautes qu'elles cachent Ben alors qu'il fait plus d'un mètre 80.
Hello.
Hi.
Ben est désormais occupé à plein temps. Il est aidé par 2 jeunes étudiants en agriculture et demande même à Anna de lui donner un coup de main. Elle travaille dans le marketing du vignoble, mais elle est habituée à travailler dans les champs aussi.
Ces vignes ont 2 ans, c'est du pinot blanc. Ce qu'on fait actuellement, c'est du tucking in. On place toutes les pousses entre ces 2 fils de fer pour qu'elles soient bien droites, afin qu'elles reçoivent le plus de soleil possible. Un vin anglais doit être délicat, car nous n'avons pas le taux d'alcool que vous avez dans le sud de l'Europe. Délicat donc, mais très aromatique, frais, citronné, des notes tropicales et fleuries. À l'est de l'Angleterre, on peut produire de très bons fruits. Le sud du Norfolk, dans le Suffolk ou dans l'Essex, ce sont des régions sèches comparées au reste de l'Angleterre, ce qui veut dire qu'on peut faire de la vendange de fin septembre à début novembre pour bien faire mûrir des variétés comme le Bacchus.
Ben vient de finir une rangée et termine en resserrant les fils sur le poteau pour s'assurer que le vent ne balance pas trop les vignes. Un geste assuré bien que sa reconversion ne remonte qu'à 3 ans. Mais pour cet enthousiaste qui a travaillé en Amérique du Sud et en France pendant plusieurs années avant de lancer Flint Vineyard, c'est une vraie aventure. Car les vins anglais sont toujours jeunes, dit-il, et la notion de terroir n'existe pas encore.
On ne connaît pas nos sols aussi bien que les Français connaissent le leur. Je ne sais pas ce que les fruits vont donner dans ce champ comparé à celui d'à côté. Parce qu'on a du Bacchus là par derrière et aussi dans la pente, juste en face de la maison. Il va nous falloir quelques années pour bien comprendre. Mais c'est passionnant.
En attendant, pour que les vins et vignobles anglais décollent et se fassent une réputation, Ben et Anna rentrent pour préparer la prochaine visite du vignoble. Toutes les semaines, des groupes de touristes, britanniques en particulier, viennent faire un tour de leurs vignes et déguster leurs vins. Une activité qui mêle promotion de Flint Vineyard et éducation.
Reportage de Marie Billon à retrouver en images avec les photos de Julia Serron sur notre page Accent d'Europe. Un reportage réalisé avec le soutien de la Commission européenne. La mer du Nord est loin d'être épargnée par la pollution et la dégradation inquiétante des fonds marins. Au large des Pays-Bas, certains récifs souffrent de plus en plus de désertification, à tel point que certains ont décidé d'agir. Grâce à l'impression 3D, des militants écologistes espèrent recréer tout un écosystème. Antoine Moutot.
C'est en pleine mer du Nord que les organisations de défense de la nature, WWF et ARC, mais aussi des chercheurs universitaires, ont déposé ces dernières semaines d'impressionnantes installations. Tout d'abord, de véritables bancs composés de 6000 kg d'huîtres qui reposent sur des structures calcaires réalisées grâce à l'impression 3D. Mais aussi de grandes boîtes en forme de cubes remplies d'un millier de kilos d'huîtres. L'idée est de pouvoir les remonter régulièrement pour permettre aux scientifiques de suivre plus facilement et régulièrement l'état des mollusques. Avec ces constructions futuristes, les défenseurs de l'environnement veulent faire revenir petits poissons, raies et même requins. Selon WWF, à la fin du 19e siècle, les fonds marins néerlandais étaient composés à environ 20% de bancs d'huîtres plates, mais en raison notamment de l'exploitation intensive de la mer du Nord par l'homme et de maladies, les huîtres ont presque complètement disparu des Pays-Bas. Un phénomène qui a causé l'appauvrissement de toute la faune marine. Pour ces récifs d'un nouveau genre, ce sont des huîtres plates de Norvège qui ont été importées et implantées. Les scientifiques auraient pu utiliser à la place les quelques rares dernières huîtres autochtones découvertes par hasard il y a peu au large de la Zélande. Malheureusement, elles sont malades. La situation des fonds marins en mer du Nord est tellement inquiétante que pour une fois, même les pêcheurs néerlandais ont accepté de ne plus pêcher dans les zones des récifs artificiels en attendant de meilleurs lendemains.
Que c'est grisant, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement.
Notre célèbre Brigitte Bardot nationale avec un tube des années 60. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Nu au soleil, plus tant que ça finalement, puisque les Européens sont de plus en plus frileux dans leur pratique du naturisme, une activité pourtant centenaire.
Oui, alors rassurez-vous Laurent, la vie tout nue a encore de beaux jours devant elle, mais c'est le magazine britannique The Economist qui nous prévient. Les jeunes Européens seraient de moins en moins nombreux à faire donc du naturisme, une pratique, rappelons-le, née à la fin du 19e siècle qui consiste à partager sa nudité avec ses congénères, dans la nature le plus souvent, sur une plage, au bord d'un lac, voire pour les plus puristes, dans un village entièrement nu.
Alors quelles seraient aujourd'hui les raisons de ce désamour pour le naturisme ?
Alors l'article mentionne d'abord la pudeur des jeunes générations. Sur les plages françaises, par exemple, les jeunes filles ne font quasiment plus de topless, seins nus, pour les non-anglophones, alors que dans les années 80, cette démarche incarnait une certaine forme de liberté revendiquée par près de 40% des femmes. Même dans les vestiaires de foot, les commentateurs sportifs sont formels, les joueurs ne partagent plus l'intimité de la nudité comme cela était la tradition. En un mot, les jeunes sont donc plus pudiques que leurs aînés, pudibond, diront les plus renfrognés, et ce, même dans les pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne, qui a toujours encouragé le naturisme sous toutes ses formes au sein de la fameuse Freie Körperkultur, ou FKK, la culture du corps libre qui lui est si chère.
Et d'ailleurs, c'est en Allemagne que cette nouvelle pudeur a pris un tournant plus politique.
Oui, c'était l'année dernière. Gregor Gysi, le leader du parti Die Linke, la gauche, avait regretté pendant la campagne le désintérêt des jeunes Allemands pour la FKK, qu'il expliquait lui par l'avènement de la culture pornographique omniprésente, surtout chez les plus jeunes. Le fait de consommer beaucoup d'images crues de corps et de sexe sur le net aurait pour effet de sexualiser le rapport au corps et donc de rendre difficile une cohabitation neutre.
Alors aux Pays-Bas, à l'inverse, c'est à droite que l'on dénonce cette nouvelle forme de pudeur à laquelle on attribue d'autres causes.
Oui, cette fois-ci, c'est le premier ministre du pays, Mark Rutte, qui avait en 2016 constaté que la nudité disparaissait aussi des plages. La faute, selon l'homme politique de centre-droite, je cite, aux aspirations d'une minorité culturelle, fin de citation, comprendre une partie de la communauté musulmane qui revendique une forme de pudeur dans les lieux publics. Certains saunas naturistes néerlandais ont d'ailleurs ces dernières années réservé, ou plutôt ouvert des tranches horaires pour les adeptes du maillot en espérant conquérir justement un nouveau public.
Alors, autre explication apportée, l'injonction du corps parfait véhiculé notamment par les réseaux sociaux.
Eh oui, les méchants réseaux sociaux. En anglais, on appelle cela la body consciousness. C'est le fait d'être conscient de son corps, de bien le connaître, quitte à trop le voir. C'est-à-dire que les jeunes ont tellement l'habitude de se prendre en photo sous toutes les coutures, toute la journée, qu'ils ont l'impression de ne jamais avoir l'apparence satisfaisante qu'ils aimeraient avoir, sans compter que dans un monde de photos filtrées, retouchées, les vrais corps, tels qu'ils sont plus difficiles à assumer et donc à montrer dans leur simple appareil.
Alors finalement, est-ce qu'on peut imaginer un jour une Europe sans nudistes?
Alors non, probablement pas, car si la culture du nudisme dans sa forme traditionnelle perd des adeptes, l'expérience du nudisme, elle, plus occasionnelle, ne cesse de séduire, notamment en milieu urbain. Paris est d'ailleurs l'une des capitales européennes les plus concernées par ce regain d'intérêt. Cette année, on a vu éclore une pelouse naturiste dans le bois de Vincennes, mais aussi une journée spéciale pour découvrir le palais de Tokyo et ses œuvres d'art contemporain tout nus, ou encore un restaurant et même un tournoi de bowling où l'on vient sans ses vêtements. Je suis sûre que ça vous tente un peu, Laurent.
Absolument, vous m'avez mise à nu, Eve Minot. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.